La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info. Merci d'être fidèle à nos débats consacrés à l'actualité nationale. Trois invités comme d'habitude pour confronter leurs opinions sur les sujets que je vais leur proposer. Avec une nouvelle venue dans cette émission, je salue la première à la mêlée de Pauline Albouy-Pomponne, conseillère municipale de Lavaur, membre du parti Place Publique. À ses côtés, Thierry Cotel, dirigeant d'entreprise, conseiller régional d'Occitanie, président national du mouvement républicain et citoyen que je salue aussi, tout comme je salue Jean-Baptiste de Scorail, adjoint maire de Toulouse, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du parti Les Républicains. Bienvenue à tous les trois, merci d'être au rendez-vous. Un sujet local pour commencer, mais qui a un retentissement national certain. Jeudi dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral autorisant le chantier de l'A69 entre Toulouse et Castres. C'était une préconisation de Mona Rousseau, la rapporteuse publique. Elle avait demandé l'annulation du projet parce qu'elle estime notamment que les gains espérés de cette future autoroute sont insuffisants en regard des atteintes à l'environnement que sa construction induit. Cette décision inattendue, alors que le chantier est avancé aux deux tiers, a bien sûr été saluée par les opposants à la 69. Elle a en revanche concerné bon nombre d'élus et entrepreneurs locaux. L'État a d'ailleurs annoncé qu'il allait faire appel. Est-ce que vous vous attendiez à un tel retournement de situation et comment réagissez-vous à cette décision de justice et à ses conséquences? Nous écoutons d'abord la réaction de Pauline Albouy-Pomponne, qui se trouve être une élue du Tarn, justement.
Bonsoir à toutes et tous. Ma réaction... Alors, votre première question, c'est est-ce que je m'y attendais? Je m'y attendais, oui, parce que ça fait quand même longtemps qu'on connaît les faiblesses de ces autorisations environnementales, hein, données par les deux préfectures. Est-ce que je suis heureuse aujourd'hui? J'y arrive pas. J'ai une réaction très, très mitigée parce que, à la fois, cette décision qu'on attendait et qui nous semble fondée nous donne confiance à la justice, à sa capacité de faire la part des choses, la tête reposée et en résistant aux pressions qui peuvent exister de part et d'autre. Mais c'est une décision qui arrive très tard. Il y a eu énormément de violence d'État pour lancer ce projet, des arrêtés préfectoraux sous des motifs fallacieux pour mobiliser des forces de l'ordre afin de protéger les abattages des arbres, par exemple. Donc il y a eu vraiment un pressing pour que les travaux avancent et que cette décision arrive tellement tard qu'aujourd'hui c'est difficile pour beaucoup de monde de l'accepter. Ceci dit, moi j'ai relu ce que je vous disais tout à l'heure en préparation, c'est que j'ai relu le jugement porté vers jeudi dernier. Il est très fouillé, il dépiote entre guillemets toutes les raisons qui font qu'il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur, que ce soit d'un point de vue sécuritaire. L'accidentologie sur la RN126 n'est pas catastrophique. Elle peut être encore sécurisée. Cette nationale a un potentiel de sécurisation d'un point de vue économique et d'un point de vue social. Le bassin de Castres, aujourd'hui, est plus dynamique que celui d'Albi, hein, qui est relié par une autoroute gratuite à Toulouse. Donc, pour moi, il n'y a pas de situation de décrochage. Je connais plein de personnes qui habitent à Castres, qui sont très heureux de vivre à Castres et qui n'ont pas l'impression de vivre dans un bassin défavorisé. Le niveau d'équipement de la ville est exceptionnel. Il y a des hôpitaux, il y a un aéroport international, il y a une gare qui relie tous les jours Castres à Toulouse. Le taux d'emploi est comparable à Albi et Tarbes, par exemple. Et donc, oui, je pense que la décision est fondée, qu'elle est difficile à accepter. Ce qui me désole, c'est qu'elle va laisser des traces. Ce projet va laisser des traces, quoi qu'il arrive demain, des traces environnementales, évidemment, et des traces sociétales, parce que moi, je constate sur mon territoire une grosse division et je me demande, en tant qu'élu et que responsable politique, comment demain, on va continuer à construire le vivre ensemble sur ce territoire.
Oui, alors rappelons que 300 millions d'euros, donc les deux tiers du budget total, ont déjà été investis dans ce projet. Thierry Cotel, vous êtes conseiller régional d'Occitanie, bon, vous suivez ce... projet, ce chantier de près depuis le début, et vous êtes dirigeant d'entreprise, comment vous réagissez à cette décision de justice, encore une fois, plutôt inattendue, en tout cas, à ce moment-là, de l'avancement du chantier?
Je regrette d'abord qu'une décision de justice puisse en fait couvrir des décisions politiques qui ont été menées depuis des années, avec un certain nombre donc d'arrêtés, un certain nombre de recours qui à chaque fois n'ont pas abouti. Donc il y a une question tout simplement démocratique aussi sur laquelle il faut qu'on arrive à se poser. On vit une période où la question environnementale prend le dessus sur absolument toutes les autres questions, et c'est ça mon regret, qu'on soit dans l'incapacité en fait de pouvoir penser un petit peu global. J'entends souvent les écologistes dire qu'il faut penser global et agir local. Moi, je pense qu'il faut penser global et agir aussi global, c'est-à-dire qu'on puisse regarder très précisément quels sont les avantages et les inconvénients d'un projet, et qu'on regarde, si on regarde uniquement la question environnementale, ce qu'on est en train de réaliser dans notre pays, c'est-à-dire en fait une hyper-métropolisation, un décrochage d'un certain nombre de territoires, et contrairement à ce que disait madame, le décrochage de la partie Castres-Mazamet existe, une perte de population de près de 10% en 40 ans, une perte d'emploi également, 1400 emplois perdus. Si actuellement Castres-Mazamet plus d'emplois que d'autres secteurs, c'est bien parce qu'il y a eu un engagement économique et d'emploi très, très ancien, mais qui par contre est en train petit à petit de perdre, comme beaucoup d'ailleurs de territoires en région Occitanie ou même en France, c'est-à-dire au-delà des métropoles, on a cette paupérisation qui fait qu'on peut se préoccuper de savoir comment on aménage le territoire d'une manière à peu près correcte. J'entends souvent dire que on artificialise les sols, mais on ne se pose pas la question de savoir si on a artificialisé les sols entre Toulouse et Auch, par exemple.
Il y a une deux fois deux voies.
Là, on ne voit personne. On se pose la question aussi d'artificialiser 300 hectares donc, sur une autoroute, alors que chaque année, depuis plus de 20 ans, chaque année, c'est plus de 300 hectares qu'on artificialise sur l'agglomération toulousaine. Encore l'année dernière, 284 hectares. Donc moi, je préfère un territoire dynamique sur lequel on puisse implanter des entreprises qui peuvent bénéficier de friches industrielles, parce que c'est de ça dont on parle aussi, c'est-à-dire qu'il y a des friches industrielles sur la partie Castres-Mazamet
qui peut être réindustrialisée,
et là pour le coup on aura des gains environnementaux significatifs. Je préfère qu'on puisse réindustrialiser et mettre des entreprises plutôt que d'importer. Vous savez que plus de 50% de nos émissions de CO2 sont issues de produits importés. Donc je préfère avoir des entreprises dynamiques sur Castres-Mazamet pour réindustrialiser et reproduire des produits que nous achetons ailleurs, notamment en Chine, qui utilisent une énergie particulièrement carbonée. Tout ça, pour moi, c'est penser global et agir aussi global, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir dynamiser. Alors, fallait-il faire cette autoroute comme ça ? Alors, je pense que mon premier choix, c'était d'avoir les moyens de pouvoir sécuriser et en même temps aussi rendre autoroutier la partie de la nationale. Ça n'a malheureusement pas été fait par des choix budgétaires à l'époque, et puis peut-être aussi tout simplement par des choix politiques que je ne peux que regretter, qui est donc une concession. Après, quand on regarde exactement comment les choses ont été bâties sur cette autoroute, on voit bien qu'on ne construit pas des autoroutes maintenant comme on les construisait auparavant. Donc, il y a quand même aussi cette partie-là dont il fallait tenir compte. Je pense que le tribunal, en réalité, s'est porté, ou en tout cas a pris une décision liée à l'empilement d'un certain nombre donc, de mesures et d'arrêtés environnementaux qui nous empêchent, au regard de ce qui se passe sur le reste de la planète, à assurer notre développement et à faire en sorte qu'on puisse faire véritablement de l'aménagement du territoire.
Alors, Jean-Baptiste de Scorail, après ces deux premières interventions assez radicalement antagonistes, vous vous situez où ?
Forcément, j'ai un avis. D'abord, bonsoir à tous vos auditeurs. J'ai un avis qui est sensiblement le même que celui de Thierry. Nous avons ici un projet qui est mené par l'ensemble des collectivités, que ce soit le département du Tarn, la région bien entendu, le département de la Haute-Garonne, la ville de Toulouse qui soutient, qui ne participe pas financièrement, avec une participation, je dirais, de l'État à la hauteur de global de toute l'enveloppe des collectivités, c'est à peu près 6%. Donc là où je suis en désaccord avec Thierry, c'est que je pense, malheureusement, nous n'avons pas plus les moyens de faire des autoroutes, gratuite. Et donc, et d'ailleurs, c'est le mot qu'a employé Pauline, elle parle de gratuit. Et je pense que le problème, il est là. C'est que pour Auche, on ne dit rien, c'est gratuit. Pour Castres, c'est payant, donc on monte au créneau. Vous savez, moi, je connais bien le Gers, je suis ici de là-bas, j'ai suivi les travaux de l'autoroute. Il y a eu plus d'arbres arrachés sur la 4 voies en allant vers Auche que ce qu'il y a eu sur le trajet vers Castres. Je crois que, et je rejoins Thierry, on ne peut pas, à l'heure actuelle, laisser les régions plus rurales sans moyen de pouvoir gagner des pôles de compétitivité comme le sont la métropole toulousaine, qui attire beaucoup. Et on doit laisser aussi la possibilité aux gens de pouvoir continuer à vivre dans leur bassin d'habitation. Le bassin Castres-Mazamé, c'est à peu près 100, 110 000 habitants. Vous avez à côté tout ce qui est la communauté de communes de Soile, etc., qui est à peu près 25 000 habitants. Ces gens-là, ils ont le droit aussi de pouvoir venir à Toulouse, mais de pouvoir rester habiter dans leur lieu. D'autre part, vous avez un certain nombre d'entreprises, et les laboratoires Pierre Fabre en sont quand même un exemple certain, qui ont besoin d'avoir des moyens de locomotion plus rapides pour aller de leurs usines vers au moins les gros moyens de transport. Donc je crois que cette autoroute est indispensable pour le développement. Je crois que on en a marre, et les Français en ont marre de cette écologie punitive. L'écologie, elle est à tout le monde. Et là, on est en train de mettre en place des projets. D'ailleurs, on le voit vite. À peine cette décision a été prise, j'ai lu un article sur le grand contournement de Tours où ils ont l'air de dire, les écologistes ont dit, oui, on va se baser sur ce qui s'est passé à Castres, etc. Non, maintenant, on ne peut plus continuer comme ça. Ça suffit. La France est dans un état catastrophique au niveau économique, il faut quand même qu'on se donne les moyens de pouvoir faire réussir l'ensemble des Français. Et Madame parlait de division, mais la division, elle a été créée par des noyaux. Tout le monde sait que ces gens qui montent sur les arbres, etc., c'est les mêmes qui étaient à Nantes, ce sont les mêmes qui sont... C'est leur métier. Donc maintenant, ça suffit. La plupart des gens veulent cette autoroute. Les habitants de Castres-Mazamé veulent cette autoroute. Il faut qu'on fasse cette autoroute et l'État a eu raison de faire appel, et j'espère qu'on va reprendre les travaux le plus rapidement possible. Vous avez quasiment, je lisais un article où les ouvriers étaient désespérés parce qu'on est en train de les recaser par-ci, par-là pour essayer de leur donner du travail. Mais enfin, il y a quand même, je crois, un millier d'emplois qui est en jeu. Maintenant, ça suffit.
Alors, on reviendra dans quelques minutes sur le précédent que crée en quelque sorte cette décision de justice, parce que c'est vraiment une première, c'est la première fois qu'on annule un projet autoroutier pour des raisons environnementales. Mais avant, je voudrais revenir sur l'aspect économique et aussi social, sur les conséquences de cette décision de justice. Et je vais citer, excusez-moi, Pauline Albouy, propos le maire de Lavaur, je sais que vous êtes sa première opposante, mais Bernard Carayon, lui, il a déclaré que cette décision va priver d'emploi des milliers de personnes, paralyser l'économie du sud du Tarn et plus largement tous les grands projets d'infrastructure en France. On voit les conséquences que même ça pourrait avoir au niveau national. Vous évoquiez tout à l'heure le projet autour de la ville de Tours, Jean-Baptiste de Scorail.
Je parle pas encore du TGV, où on a encore supprimé dégagé ce matin ou hier, je crois, les zadistes qui étaient encore remontés sur les arbres.
Alors, est-ce que, selon vous, Pauline Albouy et Pomponne, Bernard Carayon exagère les conséquences économiques et sociales de l'arrêt du chantier de la 69?
Alors, vous avez raison de dire que je connais bien Bernard Carayon. Je sais comment il parle et comment il est capable d'affirmer fortement des choses qui ne sont pas forcément vraies. Mais alors, moi, je voudrais juste citer un géographe qui s'appelle Jean-Marc Hoffner, qui, dès 93, donc c'est 93, hein,
il y a plus de 30 ans,
voilà, avait déjà publié des études sur l'effet, le mythe en fait, de l'effet développement économique des infrastructures, que ce soit TGV ou que ce soit autoroute. Il a remis une couche 20 ans après, en 2013. Donc, les études montrent qu'il n'y a pas de lien direct entre la construction d'une infrastructure et le dynamisme économique. Il y a beaucoup de relocalisation d'activités le long de ces axes, parce qu'effectivement, c'est plus pratique. Je rappelle que nous, sur l'A68, on a une zone économique qui s'appelle les ports du Tarn, sur une autoroute gratuite et qui est vide aujourd'hui.
Oui, donc vous vous rappelez du mot gratuit. Donc je pense que le problème, il est là.
Je pense que c'est donc, un des points faibles de cette autoroute, qui est son prix. Je ne suis pas sûre que les habitants, depuis Laurent, vous parliez, monsieur, tout à l'heure, des habitants de Soile ou de Castres qui avaient envie d'avoir cette autoroute. Moi, je suis pas sûre que les habitants de Puylaurent aient envie de payer 10 euros pour aller faire leurs courses au Géant Casino à Soile. Tous les week-ends.
C'est le choix de chacun de prendre l'autoroute ou prendre une route.
Ouais. Moi, je sais que les études d'impact que j'ai lues sur l'autoroute, elles prévoient, par exemple, sur l'Avoir, 60 traversées de poids lourds en plus par jour. Ça fait un poids lourd toutes les 10 minutes en plus. D'accord ? Il y a d'autres conséquences sur les gens qui habitent sur... Nous, on habite sur ce territoire. On va subir ça. Donc, soit tu payes et tu gagnes du temps, soit... Ben, tu vas perdre une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure pour faire tes trajets habituels. Donc, c'est un projet profondément injuste. C'est aussi ça qu'on combat. Il n'y a pas que le volet écologiste, il y a le volet social. Donc ça, pour un peu des chimères de développement économique, à Castres, on a la plus belle réussite entrepreneuriale du Tarn. La société Pierre Fabre, c'est la plus belle réussite...
Et une des plus belles de la région.
Et une des plus belles de la région. Et tout ça sans autoroute. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien qu'on mette de l'argent pour gagner 20 minutes hypothétiques, parce que bientôt, moi, je mets ma main coupée que dans 10 ans, on ne roulera plus à 130 sur les autoroutes. Mais bon, bref. Donc, et puis après, une fois qu'on arrive à Toulouse, vous connaissez mieux que moi comment c'est que de s'insérer sur la rocade et d'aller à notre point d'arrivée. Moi, je pense que oui, c'est une chimère, cette histoire de développement économique. Que les infrastructures, elles ont des rôles à jouer, mais encore une fois, on a cette RN126, comme le disait monsieur tout à l'heure, le projet de sécurisation, d'élargissement de cette RN126 n'a pas été étudié en son temps.
Avec
et ça, je le regrette fortement.
Deux fois de voie au lieu d'une autoroute.
Exactement.
Oui, mais ça aurait les mêmes effets sur la coupe des arbres, etc.
Pas du tout, non. Non, c'était beaucoup plus sobre. Beaucoup plus sobre en finance et en environnement. Mais si, parce que là, sur certaines portions, on va avoir 6 voies. 4 et 2. 4 sur la RN120, 2 sur la RN126 et 4 sur l'autoroute. On n'a pas besoin de ça dans le Tarn, hein, franchement.
Sur l'argumentation, les fameuses études. Alors, vous savez, il y a l'argumentation qui dit les scientifiques ont dit que. En réalité, c'est des scientifiques qui ont dit que. C'est-à-dire que je vais vous trouver des études qui vont dire exactement le contraire. Là où je suis d'accord, c'est qu'il n'y a pas une relation directe entre... la construction de l'autoroute et un développement économique. C'est une condition qui est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Ce qui s'est passé d'ailleurs à Castres, hein, montre que la volonté de Pierre Fabre de rester en fait à Castres parce qu'il était attaché à ce territoire, on a d'autres exemples, à Figeac par exemple aussi, où il n'y a pas effectivement d'infrastructure, mais c'est la volonté et l'histoire aussi qui a fait qu'il y a pu avoir encore un développement économique dans ce secteur-là. Mais on sait que si on veut garder, et c'est le cas d'ailleurs des laboratoires Pierre Fabre qui le disent de manière très très claire, d'ailleurs ils se sont déjà installés ailleurs pour pouvoir bénéficier aussi des infrastructures routières, pour pouvoir vendre l'ensemble de leurs produits. Mais on sait bien que pour continuer en réalité à exister dans un contexte extrêmement libéralisé de notre économie, il faut aussi qu'on ait tous les atouts avec nous. Regardez ce qui se passe un petit peu partout sur la planète. Enfin, je veux dire, on est très très loin des débats dans lesquels on s'enferme d'une manière systématique. Et encore, je ne voudrais pas qu'on ait une vision assez manichéenne, en fait, de l'opposition entre les deux. C'est qu'il y a aussi des conditions qui nous permettent aussi de pouvoir tenir compte de la question environnementale, tout en faisant en sorte de permettre au territoire de continuer à se développer. D'abord, arrêter son déclin, et ensuite permettre aussi de se développer. Moi, je suis pour que ces territoires-là se développent. Parce qu'on ne peut pas continuer avec une hyper-métropolisation telle qu'on en a. Vous parlez tout à l'heure des embouteillages qui existent à Toulouse. Mais on crève de cette asphyxie-là. Et à un moment donné, il faut aussi revenir à un aménagement du territoire qui existait dans les années 50, 60, 70, où on avait ces ville, c'est
moyenne
d'équilibre en région Occitanie, mais pas simplement en région Occitanie. Vous avez les mêmes exemples un petit peu partout en France, alors qu'en réalité, on est sur cette concentration, toujours plus d'activités, toujours plus de logements, toujours plus d'artificialisation, toujours plus de problèmes, de pollution, d'embouteillage, qui fait qu'on en arrive à une asphyxie totale. Donc moi, j'aimerais que ce territoire-là puisse bénéficier de la même manière que le territoire toulousain, c'est-à-dire de toutes les infrastructures. Et là, on est d'accord, l'autoroute n'est pas le seul moyen de le faire, évidemment, loin s'en faut. Il faut aussi accompagner en termes de services publics, de moyens permettant en fait aux Castrais et aux Mazovétains de pouvoir vivre tout à fait dignement avec exactement les mêmes conditions que le Toulousain que je suis bénéficie en habitant dans la métropole.
Jean-Baptiste Scorail, vous pensez que l'arrêt de ce chantier, là, l'impact que ça va avoir, l'effet que ça va avoir, les conséquences sur l'emploi et l'économie du Sud Tarn, comme le dit Bernard Carayon, vont être désastreuses ?
Et bien sûr, je pense que ça ne va pas aider au développement. Et je suis d'accord avec Thierry. Toulouse et l'agglomération, c'est 12 000 personnes par an. La ville, c'est 5 000 personnes par an. On est en train de construire. Les Toulousains voient bien qu'on est obligé de construire. Nous avons la loi qui nous empêche effectivement d'aller sur
zéro artificialisation nette.
Sur les terres agricoles. Et c'est bien. C'est bien. Mais d'un autre côté, il va falloir monter en hauteur. Donc déjà,
ce dont les gens souvent ne veulent pas.
Eh bien oui, voilà. Donc c'est
mais
contradictoire.
C'est sûr, le logement, c'est un sujet capital.
Peut-être que je ne devrais pas le dire, mais moi je lance un satisfait site à la région pour ce travail qu'elle fait à la fois au niveau des chemins de fer, le développement effectivement des transports
les
entre les villes,
ferroviaire.
Mais aussi, ça a été un engagement, je crois, enfin, Thierry le dira mieux que moi, mais de la présidente de région de pouvoir donner la possibilité à tous les gens qui habitent dans des bassins d'habitation de pouvoir aller aussi vers Toulouse de manière assez rapide et de ne pas être enfermés dans des lieux non accessibles. Et je crois que là-dessus, c'est extrêmement important. Ce qui s'est fait pour Albi, ce qui se fait maintenant pour Castres, et moi je pense que l'autoroute se fera et je voudrais que l'État mette tous les moyens pour refaire démarrer les travaux le plus vite possible, pour qu'on avance et que, si vous voulez, la partie minoritaire des gens qui, parce qu'ils hurlent avec le loup plus fort que les autres, arrêtent d'embêter les Français. Moi, j'étais à Paris hier, et dans ma société, qui sont très loin de Castres, hein, et puis on n'a aucun rapport avec Castres, les gens m'ont dit, mais quand même, on a quand même investi un certain nombre de millions d'euros, on ne va pas arrêter.
C'est
300 millions d'euros, c'est quand même inacceptable.
Si vous voulez déconstruire, il faut voir aussi ce que ça va coûter.
C'est inacceptable de pouvoir, arrêter ce tel chantier. Donc je crois que là maintenant, il y a un ras-le-bol de la part des Français, et vous avez posé la question là-dessus, sur l'ensemble des projets qui sont en train de... Une fois qu'ils ont fini de déstabiliser un projet, ils s'en vont sur un autre. Donc ils recommencent sur le TGV, ils recommencent autour de Tours, etc. Ça suffit. Hein. Je crois que les Français ont bien compris que l'écologie est un problème important qu'il faut traiter. Et ça, c'est clair, tout le monde, et on est tous écologistes au fond de nous-mêmes. Mais ça ne doit pas être de l'écologie punitive qui empêche certaines régions de pouvoir se développer au détriment de ceux qui ont la chance, parce que j'estime avoir de la chance en habitant à Toulouse, en ayant tout autour de nous. Voilà.
Alors, pour prolonger ce que vous voulez dire, et pour revenir au point que vous souleviez tout à l'heure, cette décision de justice, si elle est maintenue en appel, donc crée une sorte de précédent parce qu'elle constitue une première en annulant un projet autoroutier pour des raisons environnementales. Est-ce que ça pourrait entériner définitivement la prépondérance des enjeux environnementaux sur toute autre considération, notamment économique ou sociale? Et il y a certains qui n'hésitent pas à y voir une sorte de bouleversement anthropologique majeur. Pauline Albouy-Pomponne. D'abord, est-ce que vous souhaitez que ce soit une sorte de jurisprudence?
Alors, ça le sera de toute façon, parce que c'est déjà inédit ce qui s'est passé. Moi, je voudrais redire quand même que ce n'est pas que l'écologie qui joue. Il y a aussi la faiblesse du dossier d'un point de vue économique et social. C'est vraiment très, très lisible.
C'est ce qu'a souligné la rapporteure publique.
C'est très, très lisible dans le jugement. Vraiment, l'injustice de cette autoroute, il ne faut pas l'oublier. Moi, je pense que ça va créer un précédent de toute façon, que ça va nous amener à revoir la façon dont on mène ces projets d'infrastructure. Moi, je pense qu'on a encore besoin de projets d'infrastructure. Je ne suis pas radicalement opposée à tous les projets d'infrastructure. Seulement, il faut les peser. Il faut vraiment peser leur intérêt. Il faut les gérer en se mettant dans les chaussures de nos enfants et pas dans celles de nos parents. Vraiment. Et moi, je suis maman de deux jeunes adultes aujourd'hui. Je vois cette génération-là n'a pas du tout la même relation
vision
à la mobilité que nous. Moi, à 18 ans et 2 jours, j'avais mon permis. C'était ma génération. J'avais besoin d'autonomie. Je bossais de toute façon. À 18 ans et 3 jours, je bossais. Donc, j'avais besoin. J'avais besoin. J'étais dans une ville petite. Et voilà, j'avais besoin. Il n'y a pas de transport. Mes enfants, ils ne sont pas du tout comme ça. Leurs amis ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ils sont très transport communautaire, etc. Je pense qu'il faut qu'on
même pour ceux qui vivent dans des villes moyennes, petites. Parce que ça, dans les métropoles, c'est
sûr.
Ah
oui, mais quand ils viennent à la maison, ils n'ont toujours pas le permis. Enfin, je veux dire, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Et on aura, dans 20 ans, on n'aura pas du tout la même mobilité que celle qu'on a aujourd'hui. Moi, ce qui me désole, c'est ces temps de... Effectivement, si on l'avait fait il y a 30 ans, cette autoroute, elle n'aurait pas posé de problème. Aujourd'hui, on est dans une phase un peu charnière de transition, là, où il faut que collectivement, on apprenne à gérer différemment nos projets. Moi, je pense qu'on n'aurait jamais dû lancer les travaux sans que le recours sur le fond ait été jugé. Vraiment.
Oui, ben on ne serait pas là, ça c'est sûr.
Vraiment. Il y a eu un forcing vraiment très, très, très fort. On l'a bien vu sur le terrain pour que ces travaux avancent et que le jour où le jugement arrive, eh ben, ce soit tard. Je ne dis pas trop tard parce que je n'ai pas envie d'être pessimiste, mais ce soit tard et que du coup, ça rajoute une autre polémique, effectivement, de l'argent dépensé. Au moment où voilà, donc ça, c'est une je pense que c'est une tactique politique qui a été jouée sciemment, voilà,
et pour à laquelle faire pression sur la justice, vous voulez dire, pour qu'il ne puisse plus revenir en arrière.
Oui, et puis aussi sur l'opinion publique.
Rentrons quand même dans le détail.
Alors, sur l'opinion publique,
dans les choses sont faites, enfin, je veux dire, c'est une interprétation en réalité du tribunal administratif, des juges et d'une juge en particulier qui, à un moment donné, pense que l'intérêt général, le juger l'intérêt général, c'est juger la façon dont elle pense l'intérêt général. Je regrette, moi, par contre, que les lois aient pu permettre cette interprétation-là et qu'en fonction, finalement, de tel ou tel juge, on en arrive, en fait, des décisions qui soient très différentes, parce qu'il y a un flou dans cette affaire-là. Et de plus en plus, dans les différentes lois qui ont été menées depuis des années, la question environnementale prend le pas d'une manière systématique sur l'ensemble donc des projets, et qu'à un moment donné, on en arrive à des situations où, effectivement, quelqu'un tout à fait légalement peut se permettre finalement de juger quelque chose parce qu'elle pense que l'intérêt général est là, et elle sous-estime complètement la question de l'emploi et la question, en fait, de la paupérisation d'un territoire. Et là-dessus, je trouve qu'il y a un danger pour ce qui on est vraiment lanterne rouge en France de la façon dont on mène, en fait, ces différents projets. Ça mérite d'être revu. On en est même, en fait, je dis ça pour nos amis écologistes, on en est même, en fait, maintenant à freiner les projets d'énergie renouvelable liés à l'éolien, par exemple, en mer, sous prétexte environnemental. Enfin, je veux dire, on ne peut plus rien faire. Et c'est ça, moi, qui me gêne. C'est-à-dire qu'on ne soit pas capable de penser un peu globalement par rapport aux besoins que nous avons de nous développer, ou en tout cas de continuer, en fait, à payer, ne serait-ce que, par exemple, nos services publics et puis notre système social. Moi, je pose aussi cette question-là. On ne peut pas le détacher, en fait, de la question de l'industrie et du fait que si on est pour un État égalitaire, en tout cas qui permettent de pouvoir corriger les inégalités sociales qui existent.
Et moi, territorial.
je suis le premier à défendre ça. On a besoin aussi d'avoir une économie qui soit prospère, ou en tout cas pas en déclin. Et ce qui se passe actuellement, c'est que je trouve qu'il y a une économie qui est en déclin. On a parlé de réindustrialisation depuis quelques années maintenant. En réalité, il ne se passe pas grand-chose. Et on voit comment on est dans une situation avec notre déficit commercial, avec l'importation, encore une fois, de produits. Je le répète parce que ça, c'est quelque chose qui me choque énormément, de pouvoir importer comme ça, d'une manière aussi massive, des produits qui sont faits avec de l'énergie particulièrement carbonée. Enfin, sachez quand même que sur notre planète, la Chine, elle a construit en 2023 500 centrales à charbon, quoi, pour pouvoir produire des choses que l'on achète nous-mêmes.
Moi, je préférerais qu'on construise des usines. Hein,
on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, ça veut dire que dans un système extrêmement ouvert, et je regrette aussi qu'il soit extrêmement ouvert, il faut qu'on ait les moyens de pouvoir combattre avec des armes égales. Et ce n'est pas ce qui est en train de se passer quand on reste enferré dans des combats qui sont pas que je ne néglige pas, mais sur lesquels on a besoin de travailler la question d'une manière globale. La question économique, sociale et politique, elle est vachement importante.
Et vous craignez que ce jugement soit un cliquet supplémentaire pour bloquer encore un peu plus.
Je pense que c'est peut-être aussi l'occasion de réagir de recorriger un certain nombre de choses de façon à ce qu'on puisse continuer à avancer. Sinon, en entropie, on ne pourra plus rien faire.
Jean-Baptiste Scorail.
Oui, moi je reviens à ce qui s'est passé dans les années 80 où on a dit on ne veut plus de centrales nucléaires, etc. Heureusement, ça a à peu près tenu. À peu près, parce qu'on a pris un peu de retard. Hein. On a reperdu un peu de certains savoir-faire. Les Allemands, dernièrement, ont réouvert leur centrale thermique à charbon, etc. Enfin, c'était pas acceptable. Hein. On est capable de faire de l'énergie propre. Les écologies ont combattu ces centrales. Et maintenant, on s'aperçoit que ben, finalement, c'est l'énergie la plus, ou une des énergies les plus propres. Donc, il y a un moment où je crois que les écologistes sont à contre-courant. Et puis, et je reviens à ce que disait Thierry en début de ses propos, c'est que il faut regarder la démocratie. Les élus du Tarn sont tous ceux qui ont été élus démocratiquement. Le conseil départemental, les conseillers régionaux.
Quelle que soit la couleur politique.
Quelle que soit la couleur politique, les sénateurs, la plupart des députés, sont pour ce projet. Donc ces gens-là, ils n'ont pas été nommés comme ça, ils ont été élus. Donc il y a un moment où il faut écouter ce que
les représentants
des élections et le résultat. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut revenir comme aux États-Unis quand maintenant les juges sont élus ? Non, moi j'ai pas envie que les juges soient élus. Le juge, il doit être impartial, capable de prendre de la hauteur et capable de prendre une décision qui est cohérente sur tel ou tel choix. Le risque qu'on va faire, c'est qu'on va réformer ou qu'il y ait des lois qui, effectivement, se remettent à réfléchir sur effectivement tous ces problèmes environnementaux qui sont réels.
Et le poids qu'on doit leur donner dans les décisions de justice, voilà.
Et donc,
les chantiers.
Et je crois que la justice aussi doit réfléchir sur ses choix et la façon dont elle veut rendre les choses. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une justice élue. Aux États-Unis, il faut rappeler que les juges sont élus. Donc, forcément, vous avez une partialité d'un côté ou de l'autre. Donc, ce n'est pas acceptable pour la France. Et je crois qu'il faut aussi écouter le peuple. Il faut écouter ce que veulent les gens. Il ne faut pas écouter. Et c'est toujours comme ça. La minorité est toujours en train d'aboyer plus que la majorité. Donc, il y a un moment où il faut qu'on avance et qu'on arrête. Sinon, on ne pourra plus rien faire en France.
Donc l'État a fait appel de cette décision. Est-ce que vous croyez que la décision de justice va être maintenue, Pauline Albouy-Pomponne?
Alors moi, je n'ai pas de boule de cristal.
C'est une question difficile. Oui.
Excusez-moi.
oui, certes.
Je ne sais pas. Alors moi, pour répondre peut-être à monsieur, les juges, ils appliquent la loi. Que je sache, les écologistes n'ont pas été au pouvoir ces dernières années. Ce n'est pas eux qui ont fait la loi.
Ben, s'ils n'ont pas été élus, c'est que peut-être les gens ne souhaitaient pas qu'ils le soient.
Ils ont appliqué une loi qui n'a pas été pensée par les écologistes, excusez-moi. Enfin, je vous entends déblatérer sur les écologistes.
Non, parce que c'est des directives aussi européennes qui ont été mises en place et qui font qu'on est, particulièrement attentif à cet aspect-là sous la pression sociale. Il y a une pression sociale, il y a la pression politique, mais il y a la pression sociale. Voilà.
Peut y avoir les convictions personnelles de la juge qui ont pu entrer en ligne de compte.
Quand je bétonne 1 mètre carré dans ma cour, c'est écocide.
Oui.
Bon, évidemment. Bon. Et on trouvera toujours plus écologiste que soi.
Oui, ça, c'est vrai.
Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours. Bon, à un moment donné, il faut juste se dire qu'il y a une limite. Et en même temps, cette limite, elle doit être pensée en fonction d'autres aspects qui influe énormément dans la vie quotidienne des gens. Quoi. Voilà,
je suis d'accord avec vous, il faut que ce soit juste, pensé sincèrement et honnêtement, et qu'il n'y ait pas des choses cachées comme ça a été dans le dossier d'impact dans l'étude d'impact de cette autoroute, par exemple, où les centrales à enrober, par exemple, elles n'étaient pas dedans, les carrières, il y a quand même plein de sujets dans lesquels ce dossier était un petit peu trompeur. Moi, je suis un peu inquiète quand je vous entends, quand même, parce que douter de la justice, c'est pas rassurant.
De l'impartialité de la justice, enfin, plutôt des juges, oui.
Voilà.
Oui. Passer par-dessus le pouvoir politique, c'est encore plus dangereux
d'un point de vue démocratique. Les politiques sont soumis à la loi comme tout le monde.
Voilà, c'est ça qui pose problème.
Ils sont soumis à la loi comme tout le monde.
On entend parler maintenant de la République des juges en France, vous savez.
Il n'y a quand même pas eu un seul arrêté, il n'y a quand même pas eu une seule décision. C'est-à-dire que là, on s'arrête sur la dernière décision. Quand vous regardez un petit peu le dossier depuis le début de l'affaire, le nombre d'arrêtés, le nombre de choses qui ont dû être produites pour pouvoir en fait avancer, ça reste quand même... Demain, je me pose la question de savoir finalement, n'y a-t-il pas à un moment donné une interprétation qui pourrait être remise en cause par rapport à tout ce qui a pu être jugé par le passé, ou en tout cas par le passé très lointain, le passé relativement récent. C'est ça, moi, qui me pose aussi quelques problèmes. Après, je suis d'accord avec vous, si la décision peut être prise, c'est que il y a une interprétation, en tout cas, qui permet de la prendre. Et moi, c'est ça qui me gêne. Je pense qu'il va falloir revoir la façon dont nos lois sont faites, notamment l'intégration de la question environnementale dans les décisions qui peuvent être prises sur des lois qui existent.
Ma question, en fait, sur le fait que l'appel fait par l'État puisse être accepté ou rejeté, c'était: est-ce qu'il y a dans le dossier quelque chose qui pourrait aller dans le sens de que l'appel aboutisse? C'est plutôt ça la question. Pauline Albouy, quand je vous écoute, vous avez regardé le dossier, pour vous la décision paraît logique. Donc à partir de là, on peut se dire pourquoi l'appel aboutirait-il?
Je ne sais pas ce que la défense aura à produire.
Il y a un moment, il faut du bon sens aussi. Et le bon sens, ça fait partie quand même des choses que
on a laissé de côté. Le bon sens, c'est pas ce qui prime.
Mais oui, mais depuis longtemps, on a laissé le bon sens de côté. Moi, ce qui m'interroge, ce qui m'interpelle par rapport à ce que dit Pauline, c'est qu'elle ne prend pas en compte les décisions démocratiques, des votes qui ont été faits par rapport à cette vision-là. Si les gens étaient contre, ils auraient voté pour que des députés. Je dirais écologistes ou insoumis, il y en a, mais la totalité sont plutôt favorables. Il y a une unité politique qui est forte. On ne va pas dire que les politiques... on sait très bien que le clientélisme, on nous le reproche, est quelque chose qui fait partie, malheureusement, pour certains, de la vie politique. Donc je crois que les gens n'auraient pas été, ou les politiques ne s'engageraient pas de cette manière si derrière eux... il n'y avait pas un appui de la population. Et je crois que la problématique, elle est là. Et c'est chaque fois pareil, c'est qu'on ne regarde pas l'intérêt général. Je crois que c'est Thierry qui le disait tout à l'heure. Et l'intérêt général, il est primordial. Quand on veut travailler, quand on est élu pour la France, pour le développement de la France. On n'est pas élu pour, je dirais, un simple parti. On doit travailler pour la France et pour développer
pour
cette France.
Pour l'intérêt général.
L'intérêt général qui est en difficulté.
Ce qui est une notion plus que floue, parce que du coup, le jugement a été fait aussi au nom de l'intérêt général. Mais au nom de l'intérêt général...
Après, il y a des interprétations, toujours.
Voilà, ce sont toujours les interprétations qui posent problème. Et là, il y a eu forcément une interprétation. Voilà, comme il aurait pu y avoir une interprétation aussi dans l'autre sens, je le conçois.
Bon, toujours est-il que maintenant, le sort du chantier de la 69, sa reprise ou son arrêt définitif, est suspendu au résultat de l'appel qu'a fait l'État pour que la justice revienne sur la décision du tribunal administratif de Toulouse. Pour notre part, nous allons faire la pause habituelle dans cette émission avant de revenir à l'antenne dans une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour à l'antenne avec mes trois invités, Pauline Albouy-Pomponne, Thierry Cottel et Jean-Baptiste Scorail. Le président de la République est intervenu à la télévision hier soir pour informer les Français de ses intentions concernant le conflit en Ukraine, alors que Donald Trump et les États-Unis semblent vouloir se désengager pour de bon dans leur soutien au camp ukrainien. Emmanuel Macron a confirmé notamment qu'il souhaite relancer l'idée d'un parapluie nucléaire européen. Bon, la forme reste cependant à préciser. Il se dit donc prêt à ouvrir la discussion, ce sont ses mots, sur une dissuasion nucléaire européenne et propose un dialogue stratégique avec les autres pays membres de l'Union européenne. Ceux qui ne disposent pas de l'arme atomique, il n'y en a aucun à part la France, évidemment, l'Angleterre n'étant plus concernée, afin que ceux-ci ne dépendent plus de la dissuasion américaine. Le chef de l'État estime que cela rendrait la France plus forte. Pour vous, est-ce que cette question peut vraiment être posée? Soutenez-vous la démarche d'Emmanuel Macron, compte tenu des nouvelles données géostratégiques que nous imposent les États-Unis de Donald Trump? Ou est-ce que l'idée d'un partage ou d'un élargissement, il s'agit plutôt d'élargissement, de la dissuasion nucléaire française aux autres pays européens, vous paraît d'emblée inenvisageable, quelles qu'en soient les modalités? Thierry Cottel.
Je ne sais plus ce que le président Macron peut encore inventer pour, au regard de l'histoire, on puisse penser qu'il est, qu'il, qu'il, enfin, Je n'ai pas de mots pour expliquer, en fait...
Qu'il va laisser une trace, vous voulez dire
Oui, ou une trace si peu... Enfin, si, je pense qu'il laissera une trace, effectivement, mais je trouve particulièrement scandaleux la proposition qui a été faite hier. Enfin, je ne sais plus ce qu'il veut inventer. Il s'agit de manière systématique pour essayer de rentrer dans l'histoire, au détriment, d'ailleurs, des intérêts de notre nation. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que, depuis le début, dans cette affaire... La façon dont il réagit me semble complètement être à côté finalement de nos propres intérêts. Penser avoir un parapluie européen nucléaire, ça veut dire perdre une souveraineté française que l'on a depuis des années et qu'il faut bien évidemment garder. L'espèce de leurre qui consisterait à dire qu'il y a une souveraineté donc européenne est pour moi un contresens. C'est-à-dire que encore faut-il qu'il y ait un peuple en Europe. Or, il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a que des peuples qui constituent l'Europe. La France a son propre arme dissuasive, nucléaire. Il faut bien évidemment qu'elle la garde. Qu'il y ait des coopérations avec d'autres pays pour ensuite faire en sorte qu'il y ait des accords dans le temps pour travailler ensemble une défense coopérative, ça c'est autre chose. Parce que au bout du compte, qui va appuyer sur le bouton s'il y a à un moment donné
la question.
C'est ça la question. Oui. Qui va appuyer sur le bouton et au nom de quoi celui qui va appuyer sur le bouton va le faire? Tant des fois nos intérêts aussi peuvent être divergents. Donc je pense que c'est une proposition encore une nouvelle fois qu'il tente de mettre en avant pour exister dans le paysage politique européen, bénéficiant d'ailleurs du fait que l'Allemagne actuellement on est encore à constituer son propre gouvernement et tirant aussi les conclusions de son affaiblissement en France. Donc je trouve que c'est complètement irréaliste que de penser qu'on puisse avoir un parapluie européen que la France pourrait donner avec sa puissance nucléaire. Non, moi je crois qu'on a tout intérêt, alors pour le coup, de faire en sorte d'investir effectivement dans l'industrie de défense, chose qu'on n'a pas faite depuis des années, qu'il faut arrêter d'avoir avec la Russie des propos particulièrement belliqueux. Regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe en réaction de l'intervention de Emmanuel Macron hier. Je trouve qu'on est en train de jouer encore avec le feu avec la Russie et que c'est franchement pas une bonne chose. À un moment donné, il va quand même falloir se poser la question dans ce conflit de savoir à quoi il sert. Comment on en sort? Quelle est la solution politique derrière? Parce qu'il y aura forcément une solution politique. La Russie, elle est éternelle comme l'Europe l'est, comme les différentes nations. Donc au bout d'un moment, il va bien falloir en fait sortir de cette impasse dans laquelle on se trouve, de façon à arrêter cette boucherie, plus d'un million de morts quand même des deux côtés. On n'en parle pas suffisamment. Il y a sûrement beaucoup de choses à faire d'un point de vue diplomatique pour faire en sorte d'arrêter cette guerre et le plus rapidement possible, évidemment, serait le mieux, tout oui. En restant lucide aussi sur ce que la Russie est en capacité de pouvoir faire ou pas.
Oui, alors Emmanuel Macron a dit hier soir que la Russie est à nos frontières. Je ne sais pas comment il faut interpréter ça, je ne sais pas de quelles frontières il parle, certainement pas des frontières françaises en tout cas. Mais bon, il a assuré tout de même que la dissuasion nucléaire, je le cite, hein, souveraine française de bout en bout, a toujours été et restera entre les mains du président de la République. Mais il a promis effectivement un débat stratégique sur la protection de nos alliés européens par la dissuasion nucléaire. On comprend ce qu'on veut. Jean-Baptiste Scorat, vous...
Alors, comment vous avez... Moi, je ne suis pas macroniste, mais hier, je pense qu'il y a certains éléments qu'a dit le président Macron qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que c'est un discours très belliqueux, quelquefois un peu exagéré, je dirais, et je rejoins un petit peu Thierry sur
la Russie et nos frontières.
Bon. Mais, on ne va pas se retrouver, on ne va pas refaire l'histoire. Mais je rappelle que Daladier est revenu le 4 octobre 1938, je l'ai noté, sur les accords de Munich, oui, en disant nous avons sauvé la paix. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que vont faire les Russes. Après l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont attaquer la Pologne? Donc il y a un moment où, si, je crois que notre responsabilité, elle est d'être vigilant. Et peut-être le fait de proposer notre aide, je dirais, avec... un bouclier nucléaire à le reste de l'Europe remettra la France au centre du dispositif et replacera la France à la place à laquelle elle devait être, c'est-à-dire la première nation européenne. Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut revenir aussi sur les erreurs du passé. trois erreurs, trois présidents, Jacques Chirac. Et c'est de mon, la plupart, c'est de mon propre camp. Jacques Chirac, en arrêtant la conscription, qui est une erreur fondamentale. À l'époque, moi, j'étais sous les drapeaux. Je me rappelle que mon chef de corps, qui a été quand même, qui a terminé général d'armée.
C'était il y a 30 ans. Hein.
Voilà, oui, mais a dit, c'est une erreur, etc., etc. Bon, très bien. Derrière, Nicolas Sarkozy a fait que baisser le budget de la défense, dans le sens où il s'est dit, ben, je vais revenir dans l'OTAN, et comme ça, on va s'appuyer, on va se mettre derrière les Américains, etc. Et ça nous évitera d'investir, et donc, deuxième erreur. Troisième erreur, Hollande a continué dans ce sens-là. Et, bien sûr, c'est là où je suis un peu en contradiction avec le président de la République, parce qu'il faisait partie du gouvernement Hollande, et à ce moment-là, on n'a pas entendu. Après, il faut aussi le mettre à son crédit, que c'est lui qui a réaugmenté le budget de la défense.
Programmation militaire.
Voilà. Oui. Donc, il y a un moment où, si vous voulez, il faut être quand même capable de se dire, ben voilà, les Américains ont fait leur choix, ils disent que ils font peut-être moins s'occuper de l'Europe, donc peut-être que la France, et c'est là où je rejoins la position du président Macron, c'est de dire que la France a peut-être un rôle important de reprendre le lead sur, effectivement, la défense, l'aide ou l'accompagnement dans les autres pays, mais il ne faut pas qu'elle soit toute seule. Et là, on voit qu'il y a déjà des divisions. Alors ce soir, je ne connais pas le résultat de la conférence, mais on voit qu'il y a quand même des divisions, que l'Allemagne ne sait pas trop, que l'Angleterre... Bon, l'Allemagne n'a pas de gouvernement.
Tout ça n'est pas nouveau.
Voilà. Oui, elles ont été pointées déjà au sommet qu'il avait organisé à l'Élysée sur l'Ukraine.
Donc, moi, je pense que peut-être le fait de proposer effectivement aux Européens ce bouclier peut redonner à la France leur place importante, mais aussi, il faut aussi rappeler à M. Macron que c'est lui qui a vendu une partie de notre industrie de défense aux Américains. Hein, donc il y a plein de choses qui ont été faites, et ça, c'était inacceptable. Donc si vous voulez, je veux bien lui faire un peu de crédit, parce que nous sommes en situation de crise, et je crois que c'est important quand même d'être réaliste et de se dire qu'est-ce que veulent les Russes, tout en préservant la paix, bien entendu. Mais on ne va pas recommencer ce qui s'est passé en 1938. C'est plus possible. Donc il y a un moment aussi, notre rôle, ça va être aussi...
Je ne suis pas d'accord, mais bon.
Notre rôle, ça va être peut-être de protéger aussi les autres pays. Donc je ne sais pas comment, on va voir. Et donc, on a un effort à faire certainement, mais maintenant, financier, comment on va faire? Parce qu'on n'a plus les moyens, etc. Donc c'est plein de choses comme ça. Donc je dis oui sur certains domaines de ce qu'a dit Macron, mais je dis attention, parce que à la fois, il a effectivement proposé des solutions, mais c'est lui qui avait détruit auparavant tous ces éléments qui nous ont conduits dans cette situation.
Et donc vous, une dissuasion nucléaire française élargie à l'Union européenne, en tout cas à certains pays de l'Union européenne, vous n'êtes pas contre dans la mesure où c'est le président de la République qui garde évidemment
la décision d'appuyer sur le bouton. Sauf que, est-ce qu'il est capable de prendre une décision si la Pologne est attaquée pour les Polonais?
Oui, non, mais
c'est la question qui se pose.
Qu'il y a derrière.
Oui, je pense que l'Europe a besoin de la France pour ça. Maintenant, il faut le voir comment.
Alors, Pauline Albouy-Pomponne, on connaît un peu les positions de Raphaël Glucksmann, le leader de Place Publique, sur ces questions. Est-ce que vous êtes complètement en phase avec lui? Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a proposé Emmanuel Macron hier soir?
Moi, je pense que le sujet est très grave. Vous vous rappelez les millions de morts. Je crois que l'Europe est là, a eu un moment un peu charnière de son histoire. Ça, pour moi, ça passe ou ça casse. Là, l'Europe a été minable vis-à-vis de l'Ukraine depuis le début du conflit. On les a beaucoup moins soutenus que d'autres pays.
Je parle de l'Union européenne.
La France a pris sa part, mais on a quand même été assez modeste. Je pense que c'est le moment ou jamais de construire une véritable Europe. Alors, est-ce que c'est l'Europe de la défense ou pas? Je suis pas assez technicienne du sujet pour le savoir.
Inévitablement.
Est-ce que l'élargissement du parapluie nucléaire moi, je pense qu'il faut qu'il soit franco-britannique. Il faut réembarquer les Anglais, les Britanniques, pardon, avec nous sur le sujet, parce qu'ils sont quand même nos voisins. On ne peut pas faire de la défense sans eux, je pense.
Surtout que c'est une des armées les plus fortes de l'Europe, avec la France.
C'est un peu la bonne nouvelle, j'allais dire, du moment, si on veut être optimiste. Cette réouverture du dialogue avec Londres... Il y a des choses qu'on peut faire au sens de l'article 5 de l'OTAN. Effectivement, l'alignement stratégique, il faut dès à présent concerter les dirigeants européens parce que on a bien vu dans les premières semaines de mandat de Donald Trump qu'il est capable de tout. Et donc, ça peut nous arriver très vite, nous tomber sur la tête très vite. Donc, c'est indispensable qu'aujourd'hui, on se mobilise pour être prêt à parer à toute éventualité et effectivement discuter de quel est le périmètre et quelles sont les conditions de protection, dans quel type d'attaque, etc. Mais moi, je serais aussi, pour ne pas faire de polémique politico-politicienne, et dire que plutôt que le président a bien parlé sur un ton un peu alarmiste hier soir, mais je suis pas sûre qu'il ait tort voilà, dans cette attitude-là.
Thierry Cottet, vous vouliez réagir à ce que disait Baptiste de Scorail.
Oui, pour le parallèle avec 1938, parce qu'on entend beaucoup parler, mais la situation est quand même radicalement différente. On a une Russie qui a attaqué effectivement l'Ukraine. Après, je reviens pas sur ce qui s'est passé aussi.
L'accord de Minsk, et puis.
Parce qu'il y a quand même des responsabilités sur lesquelles.
L'Ukraine a ses responsabilités, c'est vrai.
Oui, et les Européens aussi ont leurs responsabilités. Et les va-t-en-guerre ont leurs responsabilités. Oui. Et là-dessus, pousser en réalité l'ensemble de ces pays sous prétexte de démocratie pour éviter d'être bouffé par l'ours russe était complètement à côté de la plaque, quoi. Au bout d'un moment, évidemment que la Russie se sentait aussi agressée par les incantations des uns et des autres, faire en sorte que tous les pays limitrophes à la Russie puissent intégrer à un moment donné l'OTAN. N'oublions pas ce qui s'est passé en Ukraine et le président Zelensky. Il représente une partie évidemment la plus importante parce qu'il a été élu démocratiquement, mais il y a aussi une opposition relativement forte et qui n'est pas forcément non plus russophone ou pro-russe, mais en tout cas qui cherche à garder une certaine autonomie et puis une certaine indépendance aussi par rapport non seulement au monde occidental mais également aussi à la Russie. Donc c'est ça moi qui m'importe aussi de voir comment les choses se sont passées là-bas. La Russie, depuis qu'elle est entrée en guerre avec l'Ukraine, on nous parle que demain elle va envahir les rues de Paris, quoi, comme mais en réalité ils ont déjà du mal à gratter quelques kilomètres avec l'Ukraine. Comment expliquer que demain elle va envahir la Pologne ou la Biélorussie, etc. Bon, dans l'état actuel des choses. Ce qui ne veut pas dire que demain, la Russie ne peut pas se réarmer oui. Et devenir effectivement une menace pour les autres pays européens. C'est pour ça qu'il faut faire une différence par rapport à la situation qui est en train de se passer là maintenant, être lucide. On aurait dû l'être peut-être auparavant beaucoup plus qu'on en a été maintenant, et notamment, effectivement, faire un effort d'investissement en termes de défense. D'abord en France, voir quels sont les autres pays européens qui sont prêts aussi à le faire.
Il semblerait qu'il y en ait d'autres.
Il y en a d'autres. Et travailler en fait la coopération. Moi, je suis pour une coopération aussi avec les Anglais. J'ai pas de problème avec ça. Mais imaginez que c'est l'Union européenne qui peut être le lead de tout ça. Ne tient pas la route, quoi. Ou alors c'est un prétexte, encore une fois, pour aller vers une Europe fédérale.
Fédérale, oui, une fédéralisation.
Une fédéralisation qui est en réalité à l'encontre, finalement, de la démocratie de chacune des nations, parce que c'est finalement au sein des différentes nations que les communautés de citoyens se reconnaissent et peuvent décider en toute connaissance de cause, en fonction de leur histoire, en fonction de leur intérêt, etc. Bon, qu'il y ait des coopérations avec les autres pays européens, moi je suis extrêmement favorable à ça. Et notamment sur la défense, je pense qu'il va falloir se poser la question de savoir comment, effectivement, on peut avoir ce genre de coopération et ce genre...
Je crois qu'il y a déjà des choses qui existent un peu, hein, en voilà. termes de commandement.
Mais on voit bien comment les choses se sont passées avec l'OTAN. À un moment donné, c'est toujours le plus petit dénominateur commun, et quand il s'agit finalement d'agir, eh bien, on n'est plus en capacité de pouvoir agir. Et lorsque les Américains s'en vont, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe.
Alors, il faut quand même préciser que jusqu'à preuve du contraire, les États-Unis sont toujours... dans l'OTAN.
Oui, mais aujourd'hui, donc, on parlait justement, j'ai vu un article.
S'il y avait une attaque sur un pays de l'OTAN, normalement, chacun est susceptible de réagir.
Oui, mais enfin, bon.
Alors, si demain Trump dit, nous, on se retire, ça, c'est autre chose.
Voilà, moi, c'est pour ça que, j'ai toujours pensé que l'attitude du général de Gaulle était la bonne. Rester en pays non aligné était quand même notre force. Bon, il y a eu des choix, et de mon propre parti, des choix qui étaient différents, qui ne sont pas les miens. Je pense, et je rejoins là-dessus Thierry, c'est que. Il ne faut pas humilier la Russie. Donc, moi, j'ai toujours été contre le fait que l'on fasse rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, parce que au niveau économique, il y a quand même comme des grosses différences, etc., que ce soit sur le coût de la production et tout. Et surtout aussi au niveau de l'OTAN, on ne peut pas dire aux Russes, et je comprends que les Russes disent, mais attendez, vous nous mettez à nos portes des forces qui sont entre guillemets de l'OTAN, donc dangereuses pour nous.
Hostiles.
Et hostiles.
Vu comme hostiles.
Je peux l'entendre. Maintenant, je rappelle, et je rappelle que les Russes sont les agresseurs, même si l'Ukraine n'a pas respecté un certain nombre de choses. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, et c'est pour ça que quand j'entends Thierry qui dit c'est pas la même chose qu'en 1938, il y a un peu de ça. En 1938, il y avait beaucoup de partis qui disaient il faut la paix, il faut la paix. Oui, il fallait la paix, bien sûr. Moi, je préfère qu'il y ait la paix. Mais le problème, c'est oui, que...
Sauf que les armées allemandes, étaient en capacité, en fait, de franchir les frontières et de faire en quelques minutes les 10 kilomètres que les Russes n'arrivent pas à faire en 4 ans.
J'entends.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je l'entends, ça. Je l'entends. Parce que c'est vrai que moi, je pensais que en 15 jours, ils allaient faire affaire et ça n'a pas été le cas. Ouais. Et c'est vrai qu'un million de morts, c'est énorme par rapport à la population ukrainienne et les Russes. Mais effectivement, ils ont une force quand même importante qui est le nombre et qui les aide à obtenir le coup.
Alors pour certains, on est en 39, pour d'autres, on est en 45 au moment du partage à Yalta. Bon, vous, Pauline Albu, pour pas, je vous donne 30, et il reste à peu près 30 secondes. Pour conclure sur ce sujet, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Vous pensez qu'il faut aller dans le sens d'Emmanuel Macron, ce qu'il a annoncé hier, aller jusqu'au bout?
Oui, avec vigilance quand même, parce que tout ça va nécessiter beaucoup d'argent. Et...
Jusqu'au bout de ce qu'il propose.
Ah oui, non, pas jusqu'au bout, dans la guerre d'Ukraine.
Non, mais élargir le parapluie européen, entamer des discussions stratégiques au niveau de l'Europe sur la défense, oui, je pense que c'est vital. C'est vital pour nous, pour notre pays et pour notre communauté européenne. Ouais.
Cette 185e mêlée de l'info est terminée. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé. Bravo à Pauline Albouy-Pompon qui faisait ses débuts dans cette émission.
Avec plaisir.
Tous mes remerciements également à Coraline Camebrac à la réalisation. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à nos fidèles auditeurs, à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. À la semaine prochaine.